Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, deux rubriques dont les rencontres littéraires. Václav Richter vous fera découvrir le romancier allemand Karl May, auquel le musée Nahprestek de Prague a consacré une exposition. Mais tout de suite, place à Culture sans frontières et au cinéma. Parallèlement au festival Jeden Svět, One World, s'est déroulé toute la semaine à Prague Archidoc, une formation de l'école française de cinéma de la FEMIS en coopération avec Mediadesk en République tchèque, destinée aux cinéastes et axée sur le travail et l'utilisation des archives en documentaire. Pendant toute une semaine, workshops et rencontres ont été animés par de nombreux professionnels, parmi lesquels Helena Fantle, directrice du programme Archidoc à la FEMIS, Thierry Garel, producteur, et Catherine Bernstein, réalisatrice. Anna Kubishta les a rencontrés.
Culture sans frontières.
Helena Fantel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du programme Archidoc à la FEMIS, qui est l'école de cinéma en France.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter ce qu'est Archidoc et un peu nous expliquer la raison de votre présence ici, la vôtre, celle de la réalisatrice Catherine Bernstein, qui est juste à côté de moi et avec laquelle on parlera après, et également la présence de Thierry Garel, producteur également présent à cette table.
Bien sûr. Alors, Archidoc est une formation un peu atypique pour la FEMIS. La FEMIS, normalement, sa mission, disons sa grande mission, c'est de former des jeunes cinéastes, des personnes qui ont l'âge d'être des étudiants, des gens qui ont entre 22 et disons 27 ans. Mais nous avons aussi des formations continues, des formations qui s'adressent à des professionnels qui ont déjà de l'expérience. Et Archidoc, en gros, pour aller vite, fait partie de ces formations-là, dont certaines sont internationales, comme Archidoc, justement. Donc Archidoc est une formation européenne. Nous bénéficions heureusement d'un cofinancement du programme Média. Et c'est ce financement qui nous permet d'inviter à la fois des intervenants et des participants, pas de tous les pays, mais de nombreux pays européens. Et c'est aussi dans l'esprit d'Archidoc et du contenu de ce programme de promener un petit peu les sessions de ce programme dans les pays européens. Donc,
Prague, justement, c'est la troisième étape, si je ne me trompe pas.
Oui, alors en fait, Archidoc existe depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un programme c'est une formation qui va assez vite. Ce sont trois sessions d'une semaine, étalées sur 3 ou 4 mois. Et en principe, deux de ces trois sessions se passent en dehors de la FEMIS, disons, et de la France. Donc cette année, c'était la première session à Lisbonne. Nous aimons connecter un peu ces sessions à des événements qui sont liés au documentaire aussi. Donc nous étions à la première session à Lisbonne pendant Lisbonne Doc, et nous avons observé aussi là-bas d'autres événements, d'autres pitchs, d'autres workshops documentaires. La deuxième session s'est déroulée à Maison-Mère, à la FEMIS, et la troisième ici, parce que nous avons un partenariat de longue date. Nous connaissons l'Institut du film documentaire, ISDOC Platform, et maintenant aussi One World Jeden Svět. Voilà.
Alors, je me tourne vers vous, Thierry Garel. Vous, comme Catherine Bernstein, donc, qui est réalisatrice, vous êtes tuteur ici dans le cadre d'Archidoc. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quel est un peu votre rôle en tant que tuteur ici dans le cadre de ce rendez-vous ?
Déjà une dizaine de projets ont été sélectionnés. Ce sont des projets européens qui viennent d'un peu partout, hein, puisqu'il y a aussi bien une Portugaise, un Italien, un Suédois, un Irlandais. Et donc, ils ont des projets qui sont, à leur début, et on cherche à les aider, à le développer. Et donc, on a été punis, puisqu'on a d'abord dû aller à Lisbonne pour les faire travailler, puis ensuite à Paris pour faire un petit trailer, et puis maintenant à Prague, on est à nouveau punis de venir dans une magnifique ville pour les aider à préparer le pitching, comme on dit, c'est-à-dire la présentation de leur projet et de leur trailer à des commissioning editors qui viennent d'un peu partout en Europe aussi et à qui ils vont présenter leur projet. Alors nous les accompagnons à chaque fois en les faisant travailler ensemble aussi, réfléchir sur leur projet, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils ont oublié de faire, de passer en gros du sujet qui les concerne à un projet de film cinématographique en utilisant les images et les sons.
Est-ce que vous êtes un tuteur sévère quand vous aiguillez ces cinéastes?
Sévère, il faut toujours être dur et en même temps très généreux. C'est-à-dire, il faut être dur parce qu'il faut leur dire, ben non, ça c'est un lieu commun. Pas plus que quand on travaille en production. J'ai travaillé pendant 40 ans dans la télévision à produire des documentaires et des documentaristes. Et je pense qu'il est très important qu'on ait, avec les auteurs, un dialogue à la fois sérieux, mais sans complaisance, et pour les aider à accomplir leur œuvre et à devenir meilleurs, à ce que leur projet se renforce. Donc non, pour moi, ce n'est pas très différent.
Justement, avec cette longue expérience que vous avez de la production de documentaires, quels sont un petit peu les critères que vous aviez justement dans la sélection de ces documentaires? Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des critères spéciaux que vous appliquiez pour chacun? Finalement, c'était plus, en voyant le film, au niveau du feeling, j'allais dire.
C'est-à-dire que ce sont des projets écrits, donc c'est déjà pas des films, faut en juger. Déjà, bon, tous ces projets sont des projets qui contiennent d'une manière ou d'une autre des archives, c'est le principe d'Archidoc, de quelque sorte que ce soit, des photos, des films, des lettres, en tout cas un matériau préexistant. Non, je pense que quand on a fait la sélection, on a plutôt pensé la singularité de chacun des projets en disant, tiens, ça c'est original, tiens, ça c'est nouveau. Ce qu'on devrait d'ailleurs toujours se dire quand on considère des projets, c'est la nouveauté et la promesse qu'il peut y avoir dans un projet qui nous intéresse.
Justement, puisqu'on parle des archives et que c'est le thème d'Archidoc, quand on pense archives, d'aucuns pourraient se dire archives égale poussiéreux, un petit peu ancien, pas forcément très intéressant. Et pourtant, les archives peuvent être aussi de la matière très vivante. C'est aussi un peu le but aussi d'Archidoc, de montrer que c'est quelque chose de vivant, justement.
C'est-à-dire que les archives, c'est ce qui nous reste du passé, simplement. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir sur le passé et sur l'ombre qu'il porte sur notre présent, sinon à travers les éléments qui ont été gardés de ce passé. Encore une fois, des images, des textes, des photos, des objets. Non, je pense que c'est pas du tout poussiéreux. Je pense que savoir d'où l'on vient, savoir ce qui a construit nos sociétés, les conflits, c'est très très important. C'est comme dans la vie individuelle. Il faut savoir qui l'on est, d'où l'on vient et ce par quoi on est passé qui vous a construit. Donc, alors tout particulièrement en plus en documentaire, je crois vraiment que les films documentaires a pris sa vraie autonomie esthétique à travers des films qui essentiellement parlaient du passé. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un genre à part entière et pas simplement un appendice de la fiction ou des petits reportages de télévision, mais qu'il y avait des vrais enjeux et que ça mettait en œuvre des vraies questions et que ça permettait de partager des vraies réflexions sur le monde.
Et de manière générale, quelles sont selon vous un petit peu les nouvelles tendances du documentaire en France et j'allais dire en Europe de manière générale, si on peut un petit peu en distinguer?
Les nouvelles tendances, je dirais la nouvelle tendance, c'est l'incroyable diversité des écritures. C'est la vraie bonne nouvelle du documentaire, c'est qu'on se rend compte que c'est un champ absolument gigantesque. Qu'on pensait que c'était une petite péninsule et qu'on découvre que c'est un continent et une planète entière et qu'il y a une incroyable diversité de formes d'expression et donc une capacité à travers le documentaire de se confronter à des questions d'une incroyable diversité et d'une incroyable complexité tout en gardant la simplicité de la communication du cinéma qui est que voilà, c'est un esprit qui communique avec un autre par des images, des sons et des objets temporels.
Les outils changent aussi beaucoup et les outils changent assez vite, ne serait-ce que au niveau de la vidéo, on peut un petit peu. On dit aujourd'hui que voilà, on peut faire de la vidéo un peu avec tout. Est-ce qu'elle est un peu votre regard justement sur ça?
Comment écrivez-vous avec un crayon HB ou avec une plume? Bon, mais grosso modo, quand même, la construction des objets, c'est la même chose. C'est la même chose. On construit les réalisateurs construisent des objets temporels fixes, comme disait le philosophe. C'est-à-dire des expériences à vivre simplement où du temps se passe, des images et des sons et des paroles. Qu'on les fasse avec une petite caméra, une grosse caméra, bon, ça change, il y a des nuances, mais c'est toujours un film.
Alors, Catherine Bernstein, je me tourne vers vous. Vous êtes réalisatrice de documentaires, on parlait des archives, vous êtes évidemment ici aussi tutrice dans le cadre d'Archidoc, mais vous avez également présenté à Prague, mardi soir, votre film « Assassinat d'une modiste ». Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la genèse de ce film, qui est un film très personnel, d'ailleurs comme beaucoup de vos films aussi Archidoc, quand je pense à la trilogie Cassel, c'est aussi un rapport personnel à votre histoire. Donc est-ce que vous pourriez, oui, un petit peu résumer comment est-ce que vous êtes venu à raconter l'histoire de votre grand-tante, en fait?
Je tiens à préciser qu'en racontant l'histoire de ma grande-tante, j'espère, en travaillant sur l'infiniment petit, toucher à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire que c'est presque un principe narratif de réalisateur. Mais le vrai sujet, c'est pas de raconter les souvenirs que j'avais ou que je n'avais pas de ma grande-tante, mais à travers elle, de raconter l'histoire, là en l'occurrence, d'une modiste sur les Champs-Élysées pendant la guerre, qui s'avère être juive, et donc à travers elle, j'espère raconter l'histoire des juifs français sous l'occupation, ou en tout cas les juifs en France sous l'occupation. C'est-à-dire de raconter, là en l'occurrence, avant la mort physique, la mort sociale, c'est comment petit à petit... Tout est enlevé, enfin oui c'est ça, c'est la mort sociale à travers la privation des biens matériels, à travers tous les interdits qui ont lieu et qu'on n'a jamais décidé du jour au lendemain d'exterminer un peuple, mais qu'il y a eu des signes avant-coureurs qu'on n'a pas su voir en l'occurrence. Après coup c'est facile de les voir, mais sur le coup il y avait pas mal de signes qu'on n'a pas voulu voir.
Puisque justement vous travaillez aussi avec les archives, comment est-ce qu'on travaille justement avec ce matériau du passé pour un objet du présent finalement, ce film?
Alors justement, il en va des archives comme des images d'aujourd'hui, c'est qu'on peut les utiliser de mille et une façons différentes. C'est pour ça que je trouve que c'est un outil extrêmement contemporain et moderne, et qu'on peut très bien s'approprier des images faites par un autre et les détourner de leur sens premier, mais à la fois pour exprimer notre propre langage à nous. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. En l'occurrence, pour Assassinat d'une modiste, j'ai essayé de prendre uniquement des archives plutôt privées de Paris, filmées par soit des Parisiens, soit par des Allemands qui étaient soldats à Paris. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu prendre la grande histoire, Hitler ou Pétain, etc. Mais le quotidien...
Finalement, les gens la connaissent, cette grande histoire, finalement.
Oui, oui. C'était d'essayer de retrouver le Paris de ma protagoniste, en l'occurrence... Fanny Berger.
Et est-ce que justement dans ce travail, vous-même, vous avez découvert des choses par exemple que vous ne saviez pas? Est-ce que ce travail de recherche finalement vous a enrichi, vous personnellement?
Ah mais tout le temps, heureusement, sinon j'arrêterais ce métier. La seule chance de ce métier, c'est que c'est à chaque fois, c'est à chaque fois des essais. À chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau et on essaye de... Et par exemple, pour les documents dans Assassinat d'une modiste, j'ai essayé de trouver un équivalent cinématographique pour recréer la sensation que je pouvais ressentir en trouvant un document où il y avait soit une empreinte, soit une signature, par exemple de Fanny Berger. Quand j'ai trouvé le premier document postal où il y avait sa signature, comme quoi elle avait reçu un colis au camp de Beaune-la-Rolande, j'ai été bouleversée par cette signature. Et du coup, après, je me dis comment
retranscrire ça, en fait?
Oui, filmiquement, à travers le montage, à travers la bande-son, à travers le cadrage, à travers...
Ce que ne dit pas Catherine, c'est que de Fanny Berger, il ne reste plus rien que quelques photos, et que, précisément, le film est construit sur ce manque et sur ce vide, et qu'en revanche, dans la quête qu'elle fait des différentes étapes de la vie de Fanny Berger et de la spoliation et de sa déportation, on découvre que tout le long, il y a des traces, et ce sont des traces de documents administratifs qu'on trouve ici, qu'on trouve là, des écritures, des détails, des dates, et ce parcours dans justement ces traces est tout sauf poussiéreux. C'est d'un seul coup d'une émotion très très grande.
En fait, c'est quelqu'un qui avait, entre guillemets, disparu, mais que vous faites revivre par l'intermédiaire de ce film, hein, d'une certaine façon, qui avait disparu même de ses archives, de ses papiers, de ses...
Alors, j'ai jamais su répondre à la question est-ce que je la fais revivre ou pas, mais c'est comme si j'ai apporté la preuve qu'elle a réellement existé, parce qu'il reste quasiment rien. En l'occurrence, ça, il s'agit d'un film de presque une heure et demie qui est fait sur trois photos, et on retrouve au fur et à mesure des papiers laissés par les bourreaux eux-mêmes. Mais si ces bureaux n'avaient pas été aussi zélés, ils resteraient... Et à la fin, on découvre un petit feutre, un petit chapeau, un petit bibi. Mais c'est presque comme si j'avais envie de dire, eh ben, il reste quasiment rien de toutes ces personnes qui ont été assassinées, et que ben, je vous apporte la preuve qu'elle a vraiment existé.
J'ai envie de dire que même cet effacement d'identité était tellement terrible que j'ai lu quelque part que sur une fiche, vous avez découvert qu'elle était indiquée donc, comme déportée et, alors que c'est une femme, sans déportée et eux.
Mais d'ailleurs, les anciens déportés qui ont survécu au camp d'extermination, quand ils sont revenus, il y a eu un problème de statut. Et ils se sont retrouvés déportés politiques, mais ils ne l'étaient pas. Et ils n'étaient pas soldats, et ils n'étaient pas militaires. Et il y a eu... Ça a été très compliqué pour leur donner une vraie place. En tout cas, pour revenir à Archidoc, puisque nous sommes là autour d'Archidoc, vous avez posé la question à Thierry Garel, qu'est-ce qui faisait qu'on choisissait plutôt tel ou tel projet. À aucun moment, la question de la faisabilité par rapport à une chaîne de télévision n'est rentrée en ligne de compte. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être vendeur ou pas? Nous avons choisi uniquement des projets par coup de cœur. C'est-à-dire où on s'est dit, là, il y a un potentiel de film, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On a suivi nos désirs, oui, réels.
Tous ces films que vous avez sélectionnés, quel est leur destin après Archidoc?
Eh ben, on sera ça vendredi déjà pour voir si ça retient l'attention d'un certain nombre de commissioning éditeurs. Et puis dans le futur, ces projets vont continuer à avancer, à maturer, à rencontrer des partenaires financiers, des partenaires d'exploitation. Et on espère que ces films, un certain nombre en tous les cas, dans l'histoire ça a été le cas, non seulement vont se réaliser, mais vont trouver les moyens de leur financement et ultimement leur public.
On peut se donner rendez-vous dans 3 à 5 ans pour savoir.
Oui, c'est un cycle très long dans les documentaires. Ça ne se fait pas en 15 jours ni en 3 mois.
Merci à Anna pour cette culture sans frontières. Le musée Náprstek à Prague propose actuellement à ses visiteurs une exposition qui évoque l'œuvre et la vie d'un écrivain qui a fait rêver plusieurs générations de jeunes lecteurs. Les récits du romancier allemand Karl May sont lus et publiés encore plus d'un siècle après leur première parution et leur popularité ne se dément pas même à l'époque d'Internet et des jeux vidéo. Les auteurs de l'exposition cherchent à présenter l'œuvre du romancier dans un contexte plus large et n'oublient pas non plus le regain de sa popularité venu un demi-siècle après sa mort grâce au cinéma. Václav Richter vous présente la vie et l'œuvre de Karl May.
Rencontre littéraire. Le musée Náprstek à Prague propose actuellement à ses visiteurs une exposition qui évoque l'œuvre et la vie d'un écrivain qui a fait rêver plusieurs générations de jeunes lecteurs. Les récits du romancier allemand Karl May sont lus et publiés encore plus d'un siècle après leur première parution, et leur popularité ne se dément pas même à l'époque d'Internet et des jeux vidéo. Les auteurs de l'exposition cherchent à présenter l'œuvre du romancier dans un contexte plus large et n'oublient pas non plus le regain de sa popularité venu un demi-siècle après sa mort grâce au cinéma. La vie de Karl May a été une suite d'événements qui pourraient inspirer un roman passionnant. Le futur romancier, qui sera admiré par Albert Einstein, mais aussi par Adolf Hitler, est né en 1842 dans une famille pauvre à Ernstthal, en Saxe. Il est le cinquième des 14 enfants d'un tisserand. Enfant chétif et souffrant de malnutrition, il est frappé de cécité et ne recouvre la vue qu'à l'âge de 5 ans. Il étudie pour devenir enseignant, mais sa carrière est brisée juste à son début parce qu'il commet une série de petits vols et en tant que récidiviste, il est plusieurs fois emprisonné. Il souffre probablement d'une anomalie mentale inconnue à l'époque que la psychiatrie moderne nommera « trouble dissociatif de la personnalité ». C'est grâce au poste de rédacteur qui lui est proposé en 1875 par l'éditeur munichois Heinrich Gotthold Münchmeier que le jeune délinquant trouve finalement le salut. Il écrit pour la maison d'édition Münchmeier une série de romans d'une qualité discutable, mais qui révèle son talent littéraire. Ce sont ses récits situés dans les prairies d'Amérique du Nord qui finissent par lui apporter la notoriété et inaugurent en quelque sorte le genre du western. Une quinzaine de ses récits est centrée sur le couple d'amis Winnetou et Old Shatterhand. Les aventures de Winnetou, chef d'une tribu Apache, et d'Old Shatterhand, qui est un portrait idéalisé de l'auteur, feront le bonheur des millions de petits lecteurs et seront traduites dans une quarantaine de langues. Parmi ces petits lecteurs, il y aura aussi, beaucoup plus tard, Peter Maschek, bibliothécaire du Musée national et auteur de l'exposition du Musée Napelsteck. Il n'est pas prêt d'oublier sa fascination par les aventures d'Old Shatterhand durant son enfance.
Au début, il y avait l'idée d'organiser une exposition sur l'œuvre de Karl May. D'abord, j'envisageais de présenter cette exposition dans le musée du livre dans la ville de Zdar nad Sazavou. Je me suis dit que c'est un sujet attractif et que les livres de Karl May pourraient intéresser le public. C'était en 2012 et j'avoue ne pas avoir réalisé que le triple anniversaire de Karl May approchait. C'était à la fois le 177e anniversaire de sa naissance, le centenaire de sa mort et le 50e anniversaire de la première du film basé sur son roman « Le trésor du lac d'argent ».
Mais lorsque le directeur général du musée national, dont le musée du livre fait partie, apprend les intentions de Peter Maschek, il lui demande de préparer d'abord une exposition sur le même sujet au musée Napelsteck à Prague. Peter Maschek s'exécute car il lui semble que Karl May lui-même aurait souhaité que cette exposition soit organisée.
Takže se tomu prostě nemůžu bránit.
Je ne pouvais donc pas m'y opposer. J'ai fait cette exposition, mais finalement, elle a été complètement différente de celle que j'avais imaginée. Il n'y a que peu de livres dans les vitrines, car le musée Napelsteck m'a permis de faire cette exposition d'une autre façon, c'est-à-dire avec des objets authentiques d'Amérique du Nord, éventuellement d'autres régions comme le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, le Kurdistan, etc. Tous ces objets sont cependant présents d'une certaine façon dans l'œuvre de Karl May. Il s'agit donc d'une relation entre les destins romanesques des héros de Karl May et les objets réels, et nous y avons ajouté encore un autre aspect, à savoir la renaissance du culte de l'écrivain qui s'est produit dans les années 1960 et 1970 grâce au cinéma.
Culte qui a été créé dans les Avant de procéder à la réalisation du projet, Peter Maschek décide de replonger dans la lecture de sa jeunesse et se met à relire les livres de l'auteur qu'il a fait tant rêver dans son enfance et son adolescence. Il relit les aventures d'Old Shatterhand, grand ami de toutes les tribus indiennes désirant vivre en paix avec les autres, mais qui est aussi un combattant courageux et astucieux quand il faut faire front aux tribus guerrières, aux voleurs et aux assassins. Ce héros sans peur et sans reproche évite cependant de tuer ses adversaires, même s'il s'agit de grands criminels crapulés, et finit presque toujours par les neutraliser, les assommer ou les capturer. Souvent, il se présente comme médiateur de la coexistence pacifique des tribus indiens et des colons blancs. En préparant l'exposition, Peter Maschek ne relit pas l'ensemble de l'œuvre de Karl May, mais le tas de livres relus atteint quand même, selon ses propres termes, une hauteur d'un mètre et demi. Quand il relit les aventures d'Old Shatterhand et de Winnetou, il éprouve parfois la même excitation et retrouve les sensations de son enfance. Mais il avoue aussi avoir relu certains passages avec un sourire un peu sarcastique.
Pendant la lecture, j'ai pris beaucoup de notes, notamment sur les objets figurant dans les récits. Puis je me suis mis à consulter avec des conservatrices du musée Napelsteck et à chercher dans leur collection du musée des objets attractifs qui pourraient illustrer les récits de Karl May. C'est de cette façon donc que nous avons progressivement créé le scénario de l'exposition et nous avons rassemblé les objets réels pour finalement les exposer. Et je cherchais à y ajouter aussi des documents sur le retour du culte de Karl May dans les années 1960.
K tomu jsem se snažil schánět ty doklady toho kultu z těch 60. let a další.
Le visiteur de l'exposition peut voir dans la vitrine des costumes et ustensiles authentiques utilisés par les Indiens d'Amérique, mais aussi des objets figurant dans les romans de Karl May, qui sont en quelque sorte la matérialisation de la fantaisie du romancier. Certains de ces objets ont été prêtés aux organisateurs de l'exposition pragoise par le musée Karl May en Allemagne. Il s'agit notamment des armes avec lesquelles Old Shatterhand et Winnetou font des performances quasi miraculeuses. Petr Mašek dévoile le mystère de ces armes.
Karl May a d'abord imaginé ses armes et les a décrites dans son œuvre. Ce n'est qu'après être devenu auteur célèbre et adoré par des foules de lecteurs qui lui écrivaient et désiraient lui rendre visite qu'il a fait secrètement fabriquer ses armes pour les montrer lors de ses conférences. C'est ainsi qu'il a attiré sur lui beaucoup de problèmes parce qu'il a reçu énormément de lettres de ses lecteurs lui demandant comment il pouvait posséder le fusil d'argent de Winnetou après l'avoir mis dans la tombe de son héros et l'avoir enseveli avec lui à la page 268. Ainsi, dans le tome suivant, Karl May s'est vu obligé d'expliquer que les Comanches, ou une autre tribu ennemie, cherchaient à profaner le tombeau de Winnetou et qu'il les avait donc devancé et déterré le fusil.
La limite entre la réalité et l'imagination dans la vie de Karl May semble très vague. C'est son imagination qui lui a apporté la gloire et la richesse et il désire donner une forme palpable aux fruits de sa fantaisie. Il se substitue au héros de ses romans. Il est Old Shatterhand et aussi Karaben Nemsi dans la série des romans qu'il a située au Proche-Orient. Il veut incarner pour ses lecteurs ces héros courageux, forts et intelligents, toujours prêts à combattre les mauvais sujets et à aider les faibles. Ils présentent leurs exploits comme ses propres aventures et accumulent les preuves tangibles de sa propre légende. Et le lecteur veut bien croire que c'est lui qui a vécu toutes ces aventures extraordinaires. Quelle est cependant leur déception lorsqu'ils apprennent que Karl May n'a visité l'Amérique du Nord qu'une fois dans sa vie après avoir déjà écrit la majeure partie de son œuvre et que c'est dans sa riche bibliothèque qu'il a puisé la matière pour les descriptions détaillées qui font partie de ses récits et leur donnent un aspect d'authenticité. La révélation de la nature véritable de ses inspirations et aussi de la série des délits de sa jeunesse assombrit les dernières années de la vie de cet homme pour lequel l'imagination est plus réelle que la réalité. Accusé d'imposture et épuisé par la série de procès contre ses détracteurs, il quitte le monde en 1912. Les lecteurs lui pardonnent vite ses mystifications et son rayonnement littéraire dépasse largement les frontières de sa patrie. Et lorsque, 50 ans après la mort de Karl May, le réalisateur allemand Harald Reinl portera à l'écran son roman « Le trésor du lac d'argent », il déclenchera une nouvelle folie, une nouvelle vague d'engouement pour les exploits d'Old Shatterhand et de Winnetou, incarnés par l'Américain Lex Barker et le Français Pierre Brice. Il aura fallu tourner 17 films pour assouvir la fringale qu'éprouve le public des années 1960 pour les aventures imaginées par le célèbre mystificateur.
C'est la fin, chers auditeurs, de ce programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. Demain, rendez-vous avec Alena Gebertová dans le magazine musical. Portez-vous bien. Au revoir.